Bonjour, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter jusqu'à 13h avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour sur les temps forts de la semaine avec le duel et puis le débat de ce samedi. Et maintenant, 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001, que reste-t-il du rôle et de la stratégie des États-Unis sur le grand échiquier? Le grand échiquier, l'expression est de Brzezinski. C'est un classique signé par l'ancien conseiller à la sécurité de la présidence américaine, lui qui était l'un des grands spécialistes de la géostratégie et l'un des théoriciens aux côtés du président Carter du rôle dominant des États-Unis comme première puissance mondiale. Image sérieusement abîmée par cette débâcle en Afghanistan, les images ont fait le tour du monde ces derniers jours. Ces images de Kaboul et du retour au pouvoir des talibans sont-elles celles d'un fiasco, d'un échec ou bien d'un repli américain, le retour à une ancienne tentation, celle de l'isolationnisme? On va en débattre dans une vingtaine de minutes avec notre invité, l'historien Justin Weiss. Il est spécialiste de l'histoire américaine. Il a travaillé de longues années dans l'un des plus importants think tanks états-uniens et il est aujourd'hui directeur du Forum pour la paix. Rendez-vous avec Justin Weiss tout à l'heure. Mais d'abord, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver pour commencer notre retour sur la semaine. On va se projeter vers la présidentielle de 2022. Et une question qui est posée aux différents partis, celle des primaires.
Je suis favorable à des primaires, dont vous, à des partages.
La primaire, ce n'est pas mon affaire.
D'abord, Gérard Larcher, c'était mardi sur France Inter, et puis Xavier Bertrand. Le 23 août, le président de la région Hauts-de-France a répété une nouvelle fois que la primaire de la droite n'était donc pas son affaire. Je le cite, les primaires qui semblaient incontournables pour la désignation des candidats à la présidentielle ces dernières années. Un phénomène qu'on présentait comme hautement démocratique, une manière de résoudre la crise profonde que traversent les partis politiques, une manière de renouer avec leur base électorale, de renouer aussi avec l'esprit militant sur lequel il s'était construit. L'excellente Françoise Fressoz signait il y a quelques jours un papier dans Le Monde où elle disait que ça avait changé et qu'aujourd'hui les primaires rimaient avec échec et que si les directions du PS et de LR faisaient tout pour enterrer le principe des primaires, ce n'est pas parce que celles-ci les avaient fait perdre, mais parce que ces partis étaient devenus trop faibles pour que l'exercice ait un sens. Les primaires, vous vouliez y revenir, Gilles. Pourquoi ?
Pour comprendre ce débat sur les primaires, il faut voir qu'elles s'inscrivent dans à la fois une histoire et un moment politique. La France est, avec la Ve République et l'élection du président au suffrage universel direct, un des rares pays à désigner directement son chef. Ce faisant, se pose la question des candidatures. Il y a des conditions juridiques explicites pour pouvoir être candidat, les parrainages. Et puis, il y a des conditions politiques implicites. Il faut disposer d'une organisation, d'un financement, bref, du soutien d'un parti politique. Pendant longtemps, les choses étaient relativement simples. Et puis, depuis une vingtaine d'années, parce que les partis politiques, et en ce sens, Françoise Fressoz a raison, les partis politiques ont perdu de leur légitimité et ne se sont pas sentis suffisamment forts pour choisir eux-mêmes leurs candidats, parce que d'autre part la vie politique s'est considérablement personnalisée, eh bien les primaires, des primaires ouvertes, c'est-à-dire des primaires qui ne sont pas réservées aux adhérents d'un parti, mais qui sont ouverts à l'ensemble des citoyens, se sont développées depuis 20 ans. Le paradoxe, je termine par là, le paradoxe est que les primaires telles qu'elles ont été organisées en 2011 avec la désignation de François Hollande, et même en 2016 et en 2017, ont été des succès.
Des succès.
Elles ont été des succès au sens où elles ont rempli très précisément ce pourquoi elles étaient faites. Le candidat a été désigné de manière incontestable. Il a bénéficié d'un soutien populaire avec un nombre de voix absolument considérable. C'est sur les deux primaires de 2016-2017, c'est près de 7 millions de Français qui sont allés participer à l'ensemble des deux tours. Et ils ont eu un surcroît de popularité et d'intention de vote à l'issue de cette primaire. Et donc si la droite et la gauche ont perdu l'élection présidentielle, pour une grande part, la gauche avait perdu avant la primaire, et pour une bonne part, la droite l'a perdu après la primaire, donc ça ne doit pas grand-chose aux primaires elles-mêmes.
Je n'ai qu'un nom à dire, Benoît Hamon, Natacha Polony.
Alors, ça ne se réduit pas, en effet, au cas de Benoît Hamon. Et je pense que le problème qui se pose actuellement aux partis politiques ne se résume certainement pas aux primaires. Et je pense qu'on focalise beaucoup sur cette question pour oublier que c'est l'ensemble de la vie politique qui est totalement déstabilisée et que, du coup, l'absence de légitimité du processus des primaires s'inscrit là-dedans. Mais en revanche, il est important de revenir à ce que devaient être les primaires au départ, je pense. Pourquoi on a importé ce processus qui n'a strictement rien à voir avec la tradition, la culture politique française, qui est un processus qui, normalement, existe dans des pays où on a un bipartisme quasi officiel. Et là, ça marche.
Et on pense aux États-Unis, par exemple.
Bien sûr. Et là, dans ce cadre-là, les primaires fonctionnent. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Elles ont été importées en partie, en tout cas pour certains des théoriciens des primaires, parce qu'il fallait répondre à la déstabilisation du paysage politique par le Front National. Et que c'était une façon, en fait, de garantir qu'on allait à l'avance caster le candidat qui serait au second tour face au Front National, et il fallait que ce candidat soit un candidat dit raisonnable. Et l'idée était que les primaires permettaient, dans un parti politique, de faire émerger la figure la moins radicale. Ce n'est pas ce qui s'est passé forcément par la suite, mais c'était ça au départ. L'idée, en gros, ça permettait d'avoir un libéral de droite ou un libéral de gauche pour présenter face au Front National. Et ensuite, le problème qui est venu s'ajouter, c'est la fracturation du paysage politique, et en fait ce qu'on vit là sur les primaires avec des gens qui sont à peu près à égalité, qui n'arrivent pas à se départager, dont on se dit que seule une primaire pourrait les départager, mais qu'en même temps ce serait une machine à perdre, se rejoue de toute façon à l'échelle de la présidentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de leadership, il n'y a plus de pensée politique et de courant, donc on est dans un concours de beauté où personne n'est plus légitime que l'autre.
Vous n'avez pas l'air d'accord, Gilles.
Non, qu'il y ait une crise des partis politiques et que le problème ne se résolve pas ou ne se réduise pas à la primaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Que les primaires aient été faites simplement par rapport au Front National, je crois que ce n'est pas juste. Le premier grand parti à organiser des primaires est le Parti Socialiste en 2011-2012, en primaire ouverte, et la question du Front National se pose beaucoup moins. La question du Front National au second tour et a fortiori d'une victoire se pose moins. En revanche, la question de savoir comment départager les différents candidats potentiels, là, se pose, et c'est ce problème-là qui est réglé. Et je crois que c'est ça, d'accord, la bonne question qu'il faut poser, c'est des primaires, pourquoi faire ?
Oui.
Et en fait, la réponse est assez simple. Les primaires sont là pour régler un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. En d'autres termes, lorsque, c'était le cas pour le Parti Socialiste hier, c'est le cas pour La République En Marche aujourd'hui, lorsque le président de la République en exercice est issu de son propre camp, normalement il n'y a pas de problème et donc c'est lui qui doit être investi. Et régler un problème, ça veut dire que les primaires contribuent au règlement de ce problème. Ça veut dire que le débat soit suffisamment respectueux pour qu'il ne laisse pas trop de traces. Je trouve que de ce point de vue, ce qui se passe depuis 15 jours dans les primaires écologistes est plutôt un exercice réussi. Ça suppose que ça donne, ce que je disais tout à l'heure, une légitimité aux candidats qui est désigné et donc qui est beaucoup d'électeurs. De ce point de vue-là, à l'inverse, les primaires d'Europe Écologie Les Verts vont être très très en deçà des primaires de 2011-2012. Et enfin, ça suppose, et c'est ça le principal problème, que ça couvre un espace politique suffisamment large.
Et là, il y a un problème.
Il y a un problème. Pour Europe Écologie Les Verts, d'une certaine manière, puisque c'est pas tout l'espace de la sociale écologie, mais davantage encore pour les Républicains, puisque les Républicains peuvent organiser une primaire, ouverte ou permis, je ne sais pas, ça ne réglera pas la question de Xavier Bertrand.
Et on peut rajouter la question du PS, je cite toujours Françoise Fressoz, qui analyse la situation du Parti Socialiste en disant qu'il n'a même plus la force d'arbitrer une compétition interne avec, par exemple, l'annonce imminente de la candidature d'Anne Hidalgo.
Oui, mais justement, pour Natacha Polony, puisse organiser une confrontation, encore faut-il qu'il y ait, je le répète, des courants, donc des idées, et qu'il y ait une vie des partis politiques, ce qui n'est plus le cas, et c'est bien le problème. Regardez les Républicains, vous avez Olivier Marleix qui, depuis plusieurs mois, fabrique un programme pour les Républicains. Ce programme va dans le sens de ce que lui croit, à savoir réindustrialisation, nécessité de repenser le rôle de l'État. Ça n'a rien à voir avec ce qui va être agité pendant les primaires, parce que ces primaires sont en fait une façon de faire valoir des personnalités. Mais j'insiste sur le fait que même en 2011, la question de la déstabilisation du paysage politique français par le Front National était déjà là. Et que je pense par exemple à Olivier Duhamel, qui était un des grands promoteurs de l'importation des primaires, il y avait dans son raisonnement la dimension que je dis, à savoir le fait qu'il fallait permettre d'éviter de poser en gros les problèmes qui fâchent, c'est-à-dire ceux qui fracturaient les grands partis de gouvernement, droite et gauche, la question européenne, et éviter d'avoir le surgissement d'un candidat qui soit un candidat considéré comme hors système.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Chacun en a conscience. Que l'ensemble des Français travaillent davantage, c'est indispensable pour préserver notre niveau de vie. Nous devons travailler plus longtemps. Nous devons garantir un minimum de retraite à ceux qui ont les pensions de retraite les plus modestes. Et nous devons en finir avec des régimes spéciaux qui aujourd'hui n'ont plus de signification et ne répondent plus à des contraintes particulières. Déjà qu'on en discute, c'est pas mal.
C'était le ministre de l'économie Bruno Le Maire lundi, 200 jours avant la présidentielle, 200 jours à peu près. Il y a toujours ce dossier brûlant qui revient sur le devant de la scène avec la question de la réforme des retraites dont on sait qu'elle avait suscité de vives critiques et qu'elle a été un casse-tête pour l'exécutif. Castex, justement, Jean Castex, le Premier ministre, disait que c'était un dossier qui était écarté et que les conditions d'une réforme des retraites n'étaient pas réunies à cause de la crise Covid. Et puis on vient d'entendre Bruno Le Maire, soutenu par Olivier Véran, qui parle de réformes nécessaires avec la proposition d'une pension minimale à 1000 euros, la fin des régimes spéciaux. On a du mal à y voir clair, en l'occurrence, Natacha. Est-ce que pour vous, c'est un sujet, est-ce que c'est un projet qui peut encore être porté si près de l'élection présidentielle par Emmanuel Macron et ses équipes?
Ce qui est surtout frappant, c'est l'utilisation de ce sujet à des fins politiques. Parce que le fait de pouvoir imposer une retraite minimale, c'est tout à fait bénéfique. Ça coûterait d'ailleurs, tandis que la fin des régimes spéciaux n'interviendrait forcément pas tout de suite, donc ne rapporterait pas tout de suite. Donc il y aurait quelque chose qui coûterait aux finances publiques. Donc, on pourrait considérer que c'est une prise de risque bénéfique dans un sens. On apporterait quelque chose à certains. Mais c'est pas du tout ça qui se joue, en fait, la question de savoir si on apporte de l'équité, de la justice, etc. C'est pas ça. On est dans un match où il s'agit de dire Emmanuel Macron, c'est un message envoyé aux électeurs de droite, Emmanuel Macron continue à réformer et il pourra cocher la case réforme des retraites avant la présidentielle. Sachant que rien n'est moins sûr, en fait, mais que ce qui compte, c'est de le dire, tout simplement, de maintenir l'image de celui qui veut réformer. Je pense que la question des retraites mérite quand même beaucoup mieux que ça, et je pense qu'il y a là une façon de faire de la politique qui est extrêmement révélatrice.
Je cite le président de la République, c'était le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron déclarait, j'ouvre les guillemets, « Je ne lancerai pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée. » Fermez les guillemets. Gilles Finkelstein.
Oui, c'est la raison pour laquelle le retour de la question des retraites cette semaine était assez surprenant, avec une apparence d'habileté. C'est-à-dire que si la réforme se fait, ce dont on peut douter, c'est à la fois un geste envers l'électorat ou un signe envers l'électorat de droite, puisqu'on attaque les régimes spéciaux, et envers l'électorat de gauche, parce qu'on revalorise les petites retraites, et un signe envers l'ensemble des Français sur la volonté réformatrice d'Emmanuel Macron. Et si elle ne se fait pas, ça lui permet à la fois de continuer à occuper ce terrain, et en tout cas de montrer qu'il veut réformer. Donc, en apparence, c'est assez habile. En réalité, je pense que c'est sans doute trop habile.
Trop habile.
Trop habile.
Pascal parlait des demi-habiles. On en est où là?
Ben, c'est un peu ça. Je trouve que la sincérité de la démarche est assez facilement mise au jour par les Français, à la fois pour la raison qu'a évoquée Natacha Polony, c'est-à-dire que cette réforme, dans un premier temps, coûte beaucoup et rapporte dans très longtemps, et que il faut se souvenir quand même que juste avant les vacances, on avait eu le retour d'une nouvelle réforme des retraites dans laquelle l'équilibre n'était pas la revalorisation des petites retraites et les régimes spéciaux, mais c'était on passe à 64 ans et en contrepartie on fait la dépendance, donc c'était exactement la même démarche. Et doute aussi, c'est là, sur l'efficacité de l'action d'Emmanuel Macron. Au départ, Emmanuel Macron, dans la campagne présidentielle, est celui qui a porté la volonté de réforme la plus profonde des retraites, ce qu'on appelait la réforme systémique. À l'arrivée, c'est sans doute le premier quinquennat depuis 25 ans dans lequel il n'y aura aucune réforme des retraites. Vous prenez depuis Lionel Jospin et la création du fonds de réserve des retraites jusqu'à François Hollande avec la réforme Touraine, en passant évidemment par les différentes réformes de Balladur, de Fillon. Il y a eu à chaque fois une réforme des retraites dans le quinquennat, après qu'on peut approuver ou pas approuver. C'est le premier quinquennat où il ne se sera rien passé, mais où on en aura beaucoup parlé.
Natacha, un mot ?
Oui, on a même parlé que de ça. En un mot, on ne va pas refaire toute l'histoire du débat sur la réforme des retraites. La fameuse réforme systémique, elle serait passée, elle était faisable, elle avait le soutien de la CFDT, et c'est finalement toute, j'allais dire, toute la dimension techno du gouvernement d'Emmanuel Macron qui a plombé cela pour y ajouter de force, à un moment où c'était pas opportun, la question de l'âge pivot, le relèvement de l'âge de départ à la retraite, ce qui a absolument tout bloqué. En effet, c'est un quinquennat pour rien.
Selon l'Élysée, le chef de l'État prendra une position d'ici quelques semaines. Le duel continue.
Le grand face-à-face, le duel.
Vous voyez mes livres depuis 20 ans, vous voyez mes interventions médiatiques. En fait, j'ai toujours fait de la politique. Mais je vous ai dit, le journalisme, c'est de la politique. Il n'y a rien du tout. Je suis ici, je fais mon métier. Enfin, je crois que je fais le mieux possible. Et voilà, les gens me regardent s'ils ont envie. Ils ne sont pas obligés de me regarder.
C'était Éric Zemmour sur CNews jeudi soir. J'ai toujours fait de la politique. Éric Zemmour qui est également à la une de Marianne cette semaine avec cette question que le CSA a tranchée à propos du polémiste et de l'essayiste. Le CSA qui a annoncé qu'il allait demander aux médias audiovisuels de décompter les interventions d'Éric Zemmour portant sur le débat politique national dès cette semaine. Est-ce que vous comprenez cette démarche du CSA, Gilles Finkelstein ?
Qu'il y ait des règles pour garantir l'équilibre entre les candidats, c'est absolument indispensable. Est-ce que les règles actuelles sont bonnes ? On peut franchement en discuter. Elles sont à la fois d'une très grande complexité et au fur et à mesure que l'on s'approche de l'élection elle-même, elles ont pour effet d'interdire le débat public à la télévision parce que ces règles sont inapplicables. Est-ce que compte tenu des règles, la décision du CSA est compréhensible? Je dirais que sur la forme, l'argumentation est pour le moins lacunaire. Hein, on attendrait quand même un peu plus d'explications que les deux lignes ou les trois lignes de la décision. En revanche, sur le fond, elle ne me paraît pas illogique, à moins d'être aveugle ou naïf. Et si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer avec la candidature d'Éric Zemmour, c'est quand même qu'on ne veut pas voir les choses.
Mais il n'y a pas de candidature aujourd'hui officiellement.
Non, il n'y a pas de candidature officiellement. Mais il aurait un moyen assez simple de régler ce problème, hein, c'est de dire qu'il n'est pas candidat. Il ne le fait pas parce qu'il est candidat.
S'il n'a pas fait acte de candidature, il s'apprête cependant, Éric Zemmour, à entamer un grand tour de France pour la promotion de son dernier livre dont le titre est « La France n'a pas dit son dernier mot ». Natacha, que pensez-vous de cette décision du CSA ?
Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi de titrer Marianne, notre enquête dans Marianne, comment Éric Zemmour va parasiter la campagne présidentielle. Pourquoi ? Parce que justement, il y a un effet de déstabilisation de l'ensemble du champ politique. Et notre enquête, justement, répond exactement à ce que disait Gilles Finkelstein, puisque nous nous sommes intéressés, évidemment, à la question du financement, à la question du montage d'un futur parti, à la question de la recherche des parrainages. Tout ça est en place, tout ça est mis en œuvre. Quand on n'est pas candidat et quand on n'est pas en train de faire de la politique au sens strict, on n'a pas un micro-parti, une structure pour recueillir de l'argent pour financer une campagne. Il y a donc là une forme d'hypocrisie totale. En revanche, la complexité vient du fait que depuis quelques années, le champ politique s'est élargi et s'est déplacé. Et qu'en fait, il y a, à travers ce que fait Éric Zemmour quand il dit « j'ai toujours fait de la politique », oui, c'est vrai. Et il y a une forme de porosité entre le champ médiatique et le champ politique qui devient impossible à gérer. Qu'est-ce que c'est que faire de la politique? Là, nous sommes face à, dans une situation où Éric Zemmour, tous les jours sur une chaîne de télévision, agite des idées politiques qu'il a l'intention de mettre en œuvre en basculant du côté de l'action.
Mais alors,
ce qui n'est pas la même chose que de tout simplement participer au débat démocratique.
Mais ça, où le situer sur l'échiquier politique? Est-il parmi les divers droites, selon
ça,
CSA, c'est le cas, mais
la
question pas à l'extrême droite?
La question du classement des idées politiques, là aussi, pose problème depuis longtemps. En revanche, moi, ce que je trouve important là-dedans, c'est que ça révèle la mort des partis politiques qu'on évoquait sur la question des primaires, c'est-à-dire que, hélas, le débat politique se passe dans une autre structure. C'est-à-dire que quelqu'un comme Éric Zemmour dispose d'une capacité à faire valoir et à mettre en œuvre un débat politique qui ensuite va agir bien plus efficacement que ce qui peut se passer dans les partis politiques. Ça, il va falloir à un moment réfléchir à cela et se demander ce qu'on fait avec ça.
Gilles, encore un mot avant de
passer
au débat.
Oui, encore un mot. Je crains qu'on ait à revenir et à revenir souvent sur la candidature à venir d'Éric Zemmour. Quand on regarde les réactions ou ses réactions à cette décision, le procès en censure est absolument grotesque. En fait, c'est simplement son statut qui change, et ça a en réalité assez peu d'effet. Ça a assez peu d'effet, d'abord parce que c'est simplement lorsqu'il parle de politique nationale que son temps est décompté. Et d'ailleurs, CNews a annoncé qu'il continuait son émission.
Mais non, pas du tout. Il est capable de faire une demi-heure sur Bolsonaro. Il parle de politique nationale, mais comme c'est officiellement sur Bolsonaro, ça ne compte pas.
Et par ailleurs, censure pour censure, il y a peu de gens que l'on voit autant dans les médias qu'Éric Zemmour, et il y a fort à parier que compte tenu de l'apparition de son livre, on va le voir plus que jamais. Donc, censure, c'est grotesque. Victime, évidemment, il adopte, tout le monde adore ça, la position de la victime. Jusqu'à présent, il a plutôt été coupable et reconnu coupable par la justice d'incitation à la haine raciale. Tout ça veut dire que je crois que le combat, il est ni moral, il est ni juridique. Maintenant, on rentre dans un combat politique contre Éric Zemmour.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Justin Weiss.
France Inter. Le grand face-à-face, le débat.
La liberté elle-même a été attaquée ce matin par des lâches sans visage. Mais la liberté sera défendue. Les États-Unis vont poursuivre et punir les responsables de ces actes. Je demande à tous les Américains de se joindre à moi et dire un grand merci à tous ceux qui sont en train de se battre pour sauver nos citoyens. Et je leur demande aussi de prier pour les victimes et leurs familles. Le sort de notre grande nation est testé. Mais ne vous trompez pas. Nous montrerons au monde que nous passerons ce test. Que Dieu vous bénisse.
Vous avez reconnu la voix du président américain George W. Bush. C'était quelques heures à peine après les attaques terroristes du 11 septembre. Discours prononcé depuis une base militaire, celle de Barksdale en Louisiane. Et nous voulions justement revenir sur ce discours-là. Le premier annoncé par le président américain 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001. Que reste-t-il du rôle et de la stratégie des États-Unis sur le Grand Échiquier? Le Grand Échiquier, c'était le titre d'un livre de Brzezinski qui était conseiller à la sécurité nationale d'un autre président, le président Jimmy Carter. Et c'est Brzezinski, l'un des grands spécialistes de géostratégie, l'un des théoriciens du rôle dominant des États-Unis comme première puissance mondiale. Une image dont on peut se demander si elle n'a pas été sérieusement abîmée par la débâcle en Afghanistan. Les images de Kaboul et du retour au pouvoir des talibans sont-elles celles d'un fiasco ou bien tout simplement le signe d'un repli américain, le retour à une ancienne tentation en matière de politique étrangère, celle de l'isolationnisme. Bonjour Justin Weiss.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, fondateur et directeur du Forum de Paris sur la paix. Vous avez travaillé pendant de longues années dans l'un des plus importants think tanks américains et vous étiez encore aux États-Unis dans la capitale américaine quelques semaines avant le 11 septembre. Vous y étiez chercheur invité. Vous avez avez travaillé au Quai d'Orsay, vous avez rédigé des notes pour Hubert Védrine. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pour vous, domine dans le retrait américain, 20 ans après les attentats du 11 septembre, et puisque c'est l'un des sujets sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, que reste-t-il de l'hyperpuissance américaine, pour reprendre justement l'expression d'Hubert Védrine? Que reste-t-il de la force des États-Unis sur le grand échiquier? On peut dire échec et mat?
Quand même pas. C'est un retrait qui est piteux compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est fait. Mais c'est un retrait qui vise à solder, je dirais pas 20 années d'échecs, mais presque. C'est-à-dire que après le discours qu'on a entendu il y a eu à peu près 3 semaines, pendant lesquelles les États-Unis ont négocié avec les talibans pour qu'ils livrent Ben Laden et qu'ils cessent de s'associer à Al-Qaïda, et devant le refus des talibans, il y a eu l'invasion de l'Afghanistan. Ouais. On pourrait presque dire que c'était très demandé par l'opinion publique américaine et que c'était justifié compte tenu de la fusion entre le régime taliban et Al-Qaïda. Mais ensuite, évidemment, la grande erreur et ce qui a déterminé tout le reste, c'est l'Irak. C'est l'Irak qui a détourné des efforts en Afghanistan. C'est l'Irak qui a amené les coups terribles portés à l'image des États-Unis, la torture. Souvenez-vous, Guantanamo,
Abu Ghraib,
les renditions extraordinaires. Enfin, exactement, Abu Ghraib, etc. Et puis c'est ça qui a remis une pièce dans le djihadisme global. Et c'est de là, c'est de cette matrice-là qu'est sorti Daesh en particulier, etc. Et donc, ce que fait Biden en sortant d'Afghanistan, c'est solder ces choses-là, ce qui ne veut pas dire que les États-Unis, ils ont toujours, je sais pas, ils ont toujours 11 groupes de porte-avions, ils ont toujours une armée très puissante. Leur déclin est relatif, c'est-à-dire que les autres puissances comme la Chine montent en puissance, mais ça n'est pas la fin, disons, de la puissance américaine.
On va y revenir justement. Encore une question avant de laisser la parole à Gilles et Natacha. Vous diriez qu'il y a un affaiblissement de la puissance américaine malgré tout, ou que c'est un véritable choix stratégique, celui de l'isolationnisme qui est dans la tradition américaine depuis la fondation même du pays?
Oui, tout à fait. Il y a une tradition, c'est celle du balancier, mais c'est un effet politique qu'on peut constater dans chaque empire. Il y a des moments d'extraversion où l'empire se porte à l'extérieur, fait des conquêtes ou des rétablissements de l'ordre. Et
interventionnisme.
Exactement. Et des moments d'introversion où on décide qu'il faut s'occuper, que la priorité est at home, qui est à l'intérieur. C'est ça le front qu'il faut, dont il faut s'occuper. Et on a vu ce balancier, Première Guerre mondiale, extraversion, ensuite cette fameuse phase isolationniste des années 30, quand les États-Unis ne veulent pas intervenir en Europe, puis finalement extraversion, ils interviennent, et la guerre froide, guerre du Vietnam, puis à nouveau le balancier repart dans l'autre sens au moment des années 70 en particulier, et puis là on a vu à partir du 11 septembre une nouvelle phase d'extraversion et de conquête et de projection vers l'extérieur. Évidemment tout ça s'accompagnant d'effets politiques à l'intérieur.
Natacha Polony.
Est-ce que on est dans une phase d'isolationnisme ou dans une phase où la projection se déporte vers autre chose? Parce que ce que vous disiez à l'instant sur l'Irak raconte la façon dont les néoconservateurs américains se sont saisis en fait du 11 septembre pour porter leur agenda qui était sur les États voyous dont l'Irak, alors que ça n'avait strictement rien à voir, mais ils en fait c'était une occasion pour eux. Un catalyseur. Aujourd'hui, ce discours-là, il se porte différemment, c'est-à-dire par exemple, il y a certains courants qui sont pour un affrontement plus direct avec la Russie, d'autres pour déporter ce conflit vers la Chine, parce qu'il y a réellement un expansionnisme chinois. Donc, est-ce que c'est de l'isolationnisme ou est-ce que c'est tout simplement le constat qu'avec le Moyen-Orient, c'est un échec total, mais pour autant, l'idée que l'Amérique doit mener le monde, à la fois préserver ses intérêts et en même temps porter la liberté, ne se déporte pas ailleurs.
Justin Weiss.
Oui et non. Oui, en ce sens que il y a un consensus maintenant à Washington qui est que la vraie question, c'est la Chine. Mais souvenez-vous, projetons-nous 10 ans en avant et même un peu plus, quand Obama arrive au pouvoir le 20 janvier 2009... son objectif est de solder déjà ces guerres d'Irak et d'Afghanistan, de se retirer et de faire le pivot.
De fermer Guantanamo, par exemple, et de faire
exactement, le pivot vers l'Asie, puisqu'on sait bien que ce qui s'est passé pendant que les États-Unis étaient occupés dans cette guerre contre le terrorisme des années 2000 et qui s'est prolongé plus que Obama ne l'aurait souhaité dans les années 2010, c'est un monde nouveau est apparu. les puissances émergentes, la Chine. Et tout ça, les États-Unis regardaient vers Fallujah, vers Tora Bora, vers tous ces endroits où ils traquaient les terroristes, et non pas vers ça. Et donc, ce que les présidents ont voulu faire, en particulier Obama et maintenant Biden, c'est ce fameux pivot, donc fermer, clore ces guerres inutiles. Et en effet, il y a un consensus pour rester la première puissance, et c'est essentiellement la Chine qui... Et disons l'objet de ce consensus, encore plus que la Russie, mais je dirais avec le messianisme en moins, c'est-à-dire avec l'idée de transformation démocratique maintenant tout à fait absente et largement discréditée.
Oui, on vient d'entendre justement George Bush qui tenait ce discours messianique dès le 11 septembre 2001. Gilles Finkelstein.
Ouais, je voudrais vous poser une question sur la trace de cet événement, pas seulement sur les États-Unis, on va y revenir, mais sur les Américains, sur le peuple américain lui-même. Je lisais il y a quelques jours une étude du Pew Research Center qui estimait que 20% des Américains connaissaient un ami ou un parent qui connaissait une personne blessée ou tuée dans les attentats, que 93% des Américains disaient se souvenir précisément de l'endroit où ils étaient, et que les trois quarts des adultes américains plaçaient cet événement-là comme un des événements les plus importants de leur propre vie. C'est quoi la trace durable pour le peuple américain, et c'est quoi les effets de cette trace?
Justin Weiss.
Je crois qu'il y a un effet de l'événement. Les générations de nos parents racontaient qu'ils savaient quand l'annonce de l'assassinat de Kennedy, par exemple, est parvenue, ou des grands chocs comme ça planétaires. Donc il y a l'effet, disons personnel. Mais je crois que si on prend un peu de recul, ce qui a compté en réalité, au-delà du choc visuel, etc., parce qu'il y a eu très peu de morts relativement à ce qui s'est passé ensuite. Et le 11 septembre, c'est-à-dire les victimes directes des attentats, c'est terrible pour elles, mais si on le compare avec d'autres taux de mortalité et ceux notamment des d'autres attentats, notamment dans les pays à majorité musulmane, c'est peu. Mais ce qui a compté, ça n'est pas le 11 septembre lui-même, aussi choquant soit le moment, c'est évidemment, c'est pas ce que Ben Laden a fait, c'est ce que les États-Unis ont fait en réaction à ce que Ben Laden a fait. C'est-à-dire ce qui a changé l'histoire, ce qui a changé le cours de l'histoire. Ben oui, bien sûr.
Le turning point, comme et c'est le titre d'une série de Netflix et d'un documentaire assez formidable, ce grand tournant.
Exactement. Souvenons-nous que
c'est Bush... la réaction américaine davantage que
absolument.
L'attentat terroriste.
Mais Bush était quasiment, alors je dis pas isolationniste parce que c'est excessif, mais enfin fondamentalement sa politique jusqu'au 10 septembre 2001, c'était plutôt une politique d'introversion, une politique qui ne visait pas du tout à une politique méfiante du nation building, donc d'aller dans d'autres pays les reconstruire, puisque c'était la leçon des Balkans dans les années 90. Il voulait pas du tout faire ça, c'était pas du tout son programme, et il y a été poussé. Et donc c'est ça par contre qui a ensuite changé l'histoire et transformer notamment le Moyen-Orient et la politique internationale. Un point, si vous me permettez, vous parliez, Ali, du turning point. Évidemment, il est très intéressant de se poser la question contrefactuelle. C'est-à-dire, si les bulletins de vote avaient été correctement comptés en Floride en novembre 2000, Al Gore aurait été président, en réalité, ou si la Cour suprême avait décidé autrement, oui. En décembre 2000, et un Al Gore au pouvoir, je pense, aurait produit des effets différents de ceux de Bush, en particulier sur la question de l'Irak. L'Afghanistan, probablement, il serait intervenu, l'Irak, il serait probablement...
C'est intéressant, mais juste pour nos auditeurs et pour nous-mêmes, pourquoi est-ce que vous citez l'Irak alors que nous sommes 20 ans après le 11 septembre? Quel rapport entre ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et l'attaque contre l'Irak? C'est que les moyens colossaux qui avaient été prévus pour non seulement vaincre les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan ont été détournés.
Exactement.
Pour mener la guerre d'Irak, et du coup on a laissé un État faillir.
Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la légitimité de l'intervention en Afghanistan était très grande. Vous citiez Brzezinski, à qui j'ai consacré une biographie.
Oui.
Brzezinski était en faveur de l'intervention en Afghanistan, et très vite, il a été un des farouches opposants à l'invasion de l'Irak. Parce que l'invasion de l'Irak, comme l'a dit Nada Chapolini tout à l'heure, n'avait rien à voir avec le djihadisme d'Al-Qaïda et de Ben Laden. En revanche, c'est les Américains qui ont manufacturé presque la jonction entre les deux, d'une part, et puis d'autre part, parce que c'est ça qui a porté un coup et qui a modifié les équilibres vis-à-vis de tout le Moyen-Orient, de l'Iran en particulier, et d'autres. Donc la vraie erreur, c'est en effet l'Irak.
Est-ce que ce qui a changé aussi l'histoire, ce n'est pas la réaction même intérieure, c'est-à-dire le Patriot Act, c'est-à-dire toute la politique qui a été menée ensuite de surveillance, de réduction des libertés publiques, qu'est-ce que ça a changé dans la façon dont les Américains eux-mêmes, qu'est-ce que ça a changé dans la vision qu'ils ont de la liberté ?
Oui, il y a eu une modification du rapport des Américains avec la liberté, comme après chaque période d'attentat. Hein. Souvenons-nous les lois antiterroristes de 86 en France, par exemple. Si la France a moins bougé sur cette question, c'est parce qu'elle avait déjà incorporé dans sa législation des mesures qui permettaient et qu'elles avaient été acceptées par l'opinion publique.
Oui, mais aujourd'hui, les terroristes, ceux du 13 novembre, sont jugés devant une cour d'assises à Paris. Les terroristes du 11 septembre, ou en tout cas certains qui ont été parmi les organisateurs et les cerveaux de ces attentats du 11 septembre, sont toujours à Guantanamo, et s'ils doivent comparaître devant un tribunal, ce sera devant une justice spéciale.
Oui, en fait, la plupart ont été tués. On a toujours un prisonnier français qui est Zacharias Moussaoui, qui est dans une prison quelque part aux États-Unis. Et en effet, il n'y a pas eu... le vrai moment d'inflexion pour cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect, disons, de justice ou de vengeance, pourrait-on dire, c'est début mai 2011, quand Ben Laden est tué au Pakistan. Ça, et c'est d'ailleurs le moment où l'opinion publique américaine cesse de soutenir vraiment les interventions militaires extérieures et demande qu'on ramène les troupes, puisque, d'un certain point de vue, justice est faite, et le soutien à l'intervention en Afghanistan fléchit soudainement, et les États-Unis s'étaient déjà largement retirés d'Irak, et donc c'est là qu'ensuite, il faut encore une décennie pour voir le retrait qu'on a vu le mois dernier.
Et on a tous en tête cette photo qui a fait le tour du monde, la photo dans la Situation Room à la Maison Blanche, avec Barack Obama portant un gilet, avec juste à côté de lui, celui qui était son vice-président de l'époque, Joe Biden, les deux face à un écran, attendant, et Hillary Clinton évidemment, ouais, attendant impatiemment des nouvelles des forces spéciales qui étaient...
Et Tony Blinken, l'actuel secrétaire d'État, qui était là, puis c'était le conseiller de sécurité de Biden à l'époque.
Alors précisément, quand on se replace 20 ans en arrière sur la guerre contre le terrorisme, c'est assez frappant de voir l'importance d'une forme de méprise générale. C'est-à-dire Ben Laden pensait que les attentats allaient conduire les États-Unis à se retirer du Moyen-Orient. Ils s'y sont investis comme jamais. Bush pensait que ça allait permettre d'exporter son modèle et de construire des régimes amis. On voit que l'Afghanistan est retombé aux mains des talibans, qu'en Irak, l'Iran exerce une influence considérable. Les Américains pensaient que tout ça allait durer quelques semaines ou quelques mois. Ça a duré des décennies. C'est quoi le bilan que l'on peut faire de cette guerre contre le terrorisme ?
Alors, je suis d'accord, sauf sur le point de Ben Laden. C'est-à-dire, je pense pas que Ben Laden voulait que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient. Je pense qu'il voulait les attirer dans un piège qui était le piège du choc des civilisations. C'est-à-dire précipiter cet affrontement global entre l'Oumma, entre les musulmans d'un côté et l'Occident impérialiste. C'était ça son objectif, et d'un certain point de vue, il a réussi.
Oui, parce c'est ce que je voulais vous dire. Oui. Il y a une forme de victoire posthume, c'est terrible à dire, de Ben Laden.
C'est terrible à dire, mais force est de constater que ce qui s'est passé à cause de la surréaction américaine, encore une fois, c'est pas le 11 septembre lui-même, c'est le type de réaction et l'ampleur de la réaction, l'échelle de la réaction américaine, c'est-à-dire l'invasion de l'Afghanistan, mais surtout ensuite l'invasion de l'Irak, qui a déterminé la suite de l'histoire, c'est-à-dire au fond les métastases, on pourrait dire, du djihadisme international, les conditions même de la guerre contre-insurrectionnelle en Irak, qui a donné naissance à Daesh, hein, parce que c'est vraiment là que Daesh a pris son essor, le califat, les années 2013-14, 2014-2019, etc. Et donc puis la détérioration du rapport entre les citoyens de tout pays, y compris aux États-Unis ou en France, de confession musulmane, leurs concitoyens, c'est-à-dire l'accentuation de cet âge de l'identité qui a commencé dans les années 80-90 et sur lequel Ben Laden a joué. Et il faut reconnaître que ça a eu un effet comme il l'avait prévu.
Natacha Polony.
Il y a peut-être une dimension qui vient s'ajouter à cela, qui est aussi la politique systématique menée par les États-Unis pendant plusieurs décennies, enfin qui est un grand classique, hein, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, c'est-à-dire que les États-Unis ont payé le fait d'avoir systématiquement soutenu ceux qui combattaient leurs ennemis. Donc soutien aux Moudjahidines contre l'URSS, ensuite soutien de tous ceux, donc ça se retourne, on combat l'islamisme et donc on soutient tous ceux qui combattent l'islamisme, mais sans jamais réfléchir à ce qu'on met à la place. Est-ce que cette vision du monde qui consiste a systématiquement essayé de soulever des révolutions contre le pouvoir qui semble l'ennemi, a cessé. Je me pose la question, et je pense que dans cette explosion d'un choc des civilisations qu'on voit aujourd'hui, est-ce que finalement les États-Unis sont devenus plus pragmatiques ?
Justin Weiss.
En tout cas, l'ambiance, disons, est au retrait, à l'introversion, à la fin des interventions, retrait d'Irak, retrait d'Afghanistan. On l'a vu le mois dernier. Je pense qu'il y a moins d'occasions de soutenir. Mais ce qui est sûr, c'est que le grand discours, disons, produit par le 11 septembre et la réaction américaine, c'est-à-dire le grand narratif d'un côté de guerre contre le terrorisme, de l'autre côté, du côté de Ben Laden, la lutte, la résistance, disons, des musulmans prétendant parler au nom des musulmans, a marqué ces 20 années-là, a conduit les États-Unis à intervenir. Alors,
mais vous êtes historien, Justin Weiss, 20 ans, est-ce que c'est un anniversaire terrible, mais est-ce que c'est la bonne date à commémorer ou est-ce qu'il faut remonter comme certains le font en 1979, invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques et Reagan qui arrive ensuite au pouvoir et qui décide notamment à travers la CIA de financer, comme le rappelait Natacha, de financer à fond perdu ce qu'on appelait les moujahidines, peu importe leur rapport à la démocratie, peu importe leur rapport à la foi et même les plus fanatiques, pour vaincre l'ennemi de l'époque qui était l'ennemi soviétique.
Oui, 1979, c'est la date importante à des tas de dégâts, même peut-être plus que 1989, parce que elle est ce basculement dans ce que j'appelle l'âge de l'identité, oui. Avec ce qui se passe.
Vous avez fait une tribune sur
en Iran, voilà, en Arabie Saoudite également, l'idée qu'en effet les rapports se restructurent, les rapports internationaux se restructurent structure à partir de là et produisent ces effets. Sur la responsabilité américaine, oui, certainement. Enfin, ça a été une politique que de soutenir les ennemis de l'URSS pour les entraîner dans un Vietnam. Maintenant, c'était pas écrit. Et je pense qu'il faut aussi, quand on fait ces analyses, laisser de l'agence au peuple concerné. C'est-à-dire, tout n'est pas du fait des États-Unis. Par exemple, c'est un coup d'État interne à l'Afghanistan en 78 qui avait lancé toute cette affaire. Ensuite, les Soviétiques interviennent parce que ce coup d'État a donné un régime communiste et qu'ils ne veulent pas perdre cette nouvelle carte qu'ils ont en Afghanistan, bien plus que parce que ils sont attirés dans un piège par les Américains. Et ensuite, la résistance est endogène. La résistance des Moudjahidines existe. Alors, elle est soutenue par les États-Unis, par le Pakistan, par l'Arabie Saoudite, mais elle existe par elle-même. Et je crois qu'il faut garder
dans
aussi
la population afghane. Il ne faut
bien
pas
sûr,
l'oublier.
Bien sûr.
Je suis totalement d'accord avec vous sur l'importance de penser aussi aux différentes populations. Mais vous venez de citer deux pays, l'Arabie Saoudite et le Pakistan, qui jouent un rôle majeur dans les évolutions de ces dernières décennies. Et la question qu'on se pose, c'est là aussi, en quoi la politique des États-Unis, notamment la politique de Trump, par exemple, de sa tentative de créer un axe Israël, Arabie Saoudite, États-Unis, en quoi ça révèle sans doute là aussi une vision du monde qui se veut pragmatique et qui en fait est totalement folle et qui laisse des ennemis directs des États-Unis, des gens qui financent l'islamisme, prospérer au motif qu'on va essayer de les contrôler.
Oui, alors c'est compliqué de rentrer dans l'analyse des motivations de Trump parce que son un de ses principaux soucis c'était, vous en avez parlé Ali tout à l'heure, de répondre à cette opinion isolationniste en fait. Il faisait des rodomontades et il montrait les muscles, mais en réalité il ne souhaitait surtout pas intervenir. Et d'ailleurs c'est lui qui est en fait le vrai responsable de la débâcle de d'août, parce qu'il a, quand il a commencé à négocier avec les talibans, en gros il leur a tout donné, c'est-à-dire que les accords qu'il
ce qui était impensable
il a dilapidé, lui qui se prétendait le meilleur négociateur que l'histoire ait jamais vu, il a en gros abattu toutes ses cartes pour pouvoir s'extraire d'Afghanistan, et ça a donné les conditions qu'on sait.
Gilles. C'est très intéressant rétrospectivement de rehausser une date historique. 1979, je trouve, est un excellent exemple, parce que vous citiez l'Iran, vous citiez l'Afghanistan. 1979, c'est aussi le tournant néolibéral du monde avec les élections de Thatcher et de Reagan. La revue Le Débat avait consacré un de ses derniers numéros, peut-être son dernier numéro, à ce tournant 1979 qui n'était pas apparu d'une certaine manière avant. Donc, il y a ce tournant-là. Mais si on revient, encore une fois, au 11 septembre et à ses conséquences, vous disiez tout à l'heure que l'Irak avait détourné les États-Unis. Est-ce que on peut dire que en réalité les attentats ont affaibli les États-Unis, non pas par l'attaque elle-même, mais par le fait que ils aient concentré autant d'efforts pendant autant de temps, autant de milliers de milliards de dollars sur ce sujet-là, au risque de ne pas regarder ce qui se passait ailleurs, l'essor de la Chine, ce que faisait la Russie, ce que fait l'Iran, etc.
Oui, parce que 1979, c'est aussi les réformes de Deng Xiaoping. C'est-à-dire, bah, c'est fin 78 et en 79. C'est-à-dire, autre raison pour laquelle cette année est importante,
c'est
que
le président chinois qui fait entrer cet immense pays communiste dans le capitalisme.
Dans le capitalisme et avec un taux de croissance qui sera faramineux de en gros 10% par an pendant plusieurs décennies et qui fait le géant qu'on connaît maintenant. Quand la Chine s'éveillera, disait-on, bah voilà. Oui. C'était bien à ce moment-là. Et donc, oui, bien sûr, la guerre contre le terrorisme a détourné l'attention des États-Unis sur ce qui se passait réellement.
Donc, vous diriez comme Pieraski sur l'antenne d'Inter que paradoxalement l'un des vainqueurs de cette longue guerre d'Afghanistan, c'est la Chine.
Oui.
Vive Pieraski. Vous avez beaucoup travaillé sur le néoconservatisme et c'est assez intéressant d'y revenir, de ce mouvement auquel vous avez consacré un essai il y a quelques années chez Odile Jacob, le néoconservatisme qui avait pour idée qu'on pouvait, pour le dire rapidement, exporter la démocratie, exporter quelque chose comme un modèle américain qui poussait justement à la possibilité d'intervenir militairement pour avoir des États alliés et éviter de multiplier les foyers insurrectionnels contre les États-Unis. Le néoconservatisme, c'est du passé, c'est une histoire morte ?
Oui, à ce stade, le courant n'est plus représenté sérieusement dans les cercles de pouvoir. Le conservatisme, c'était l'idée que c'était bien beau d'intervenir à l'extérieur, mais que si on ne mettait pas quelque chose d'un peu pérenne, d'un peu stable, qui se tenait sur ses pieds et pacifique, c'est-à-dire la démocratie, on n'aurait pas rempli la mission américaine. Et c'est donc la fusion, disons, du militarisme, du nationalisme, c'est-à-dire la foi dans la grandeur de l'Amérique et des principes qui l'ont bâti, et en même temps d'un messianisme, c'est-à-dire d'une volonté de mission pour les transformer. Et ça, évidemment, ça a disparu. Il y a eu deux grands moments du néoconservatisme. Il y a eu le moment Reagan au début des années 80, avec justement le soutien aux combattants de la liberté, etc. Et puis il y a eu ce moment post-11 septembre où ceux qui composaient ce courant ont eu pignon sur rue, notamment pour l'invasion de l'Irak. Et depuis, le mouvement est largement discrédité, notamment en raison de l'échec de l'Irak.
Natacha Polony.
Vous évoquiez tout à l'heure une des conséquences sur la société américaine et sur les sociétés occidentales du 11 septembre, à savoir la fracturation de ces sociétés entre les citoyens musulmans et les autres, le risque d'incompréhension, de haine. Et je pense que la fracturation des sociétés occidentales, elle se joue sur d'autres éléments, et notamment le fait que depuis le 11 septembre est apparue cette société du numérique dans la vie de tous les jours, et qu'en fait j'ai l'impression que la surveillance qui a suivi le 11 septembre a imprégné d'emblée l'expansion dans notre vie quotidienne des outils numériques. Et que ça, c'est une des dimensions problématiques. C'est-à-dire que nous avons appris à vivre avec des outils numériques qui étaient déjà des outils de surveillance. Et le deuxième point, c'est l'émergence du complotisme, qui d'ailleurs est lié, puisque c'est Internet qui a permis l'émergence du complotisme. Et ce complotisme, en fait, son grand moment, c'est le 11 septembre. Est-ce que, en fait, on a fini de mesurer tous les effets, toutes les déflagrations de ces attentats?
Justin Weiss.
Non, et je suis d'accord, on n'a pas fini de les mesurer, mais je suis d'accord avec les deux points, même si le complotisme, évidemment, existait avant,
oui,
était lié
sûr,
à la structure même du gouvernement fédéral américain.
Nombre de vidéos qui circulent encore aujourd'hui sur le 11 septembre, des vidéos complotistes, et ahurissant,
oui, mais par
avec
exemple
des succès absolument spectaculaires. Et sur le volet numérique dont parlait Natacha, c'est l'une des sociétés qui a été fondée par l'un des rois de la Silicon Valley, Peter Thiel, une société qui s'appelle Palantir et qui est spécialisée dans le traitement de data. Cette société qui a été cofinancée par la CIA à sa création, Palantir, qui se vante d'avoir été le logiciel, l'outil qui a permis de repérer et de trouver Oussama Ben Laden.
Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais alors, donc, d'une part, le complotisme existait avant, hein, sur l'assassinat de JFK, par exemple, avec d'autres moyens, la radio, la télévision, etc. Mais c'est vrai que, incontestablement, les outils numériques ont donné une caisse de résonance formidable au complotisme. Et sur le premier point, je suis d'accord aussi. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette société américaine au cours des 20 dernières années, pas seulement cet aspect de guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire que il y a eu des traumatismes liés à la globalisation, liés à la perte des bons emplois stables et réguliers. Il y a eu une victoire dans les guerres culturelles par le camp libéral, c'est-à-dire de gauche, en gros, alors même que les républicains gardaient leur pouvoir électoral et poussé. C'est un des grands paradoxes, c'est que la société américaine s'est libéralisée, allant dans le sens d'une grande acceptation de l'homosexualité, du mariage homosexuel, etc. Et dans le même temps, et notamment au niveau des États, on l'a vu récemment encore au Texas, d'un plus grand conservatisme. Mais le point général, c'est qu'il y a eu toutes ces forces-là, et en particulier les effets de l'arrivée du numérique, et ce qui est le plus important, il me semble, des 20 dernières années, c'est-à-dire la polarisation politique, qui est exceptionnelle, qui est incroyablement puissante, c'est-à-dire qu'on est démocrate ou on est républicain, et il y a un alignement entre l'idéologie, disons, le parti politique, la religion et ce qu'les Américains appellent la race, et c'est ça qui a marqué encore plus profondément, sans doute, que le 11 septembre, la société américaine et son évolution, qui explique Trump et qui explique la situation actuelle.
S'il y a eu des progrès, d'ailleurs, à nuancer sur le plan de la démocratisation, de la libéralisation d'un point de vue sociétal, la démocratie libérale dont les États-Unis étaient le symbole a connu aussi, vous l'avez dit, des crispations, des reniements de Guantanamo à Abu Ghraib, en passant par la surveillance généralisée dénoncée par mise à lumière par Snowden. Cette crispation identitaire, est-ce que, puisque l'émission se termine, est-ce que on a une chance avec l'élection de Joe Biden de rentrer dans un moment de décrispation, ou est-ce que c'est une illusion, une utopie, un espoir nécessairement déçu?
Son pari à lui, c'est de traiter les racines de cette polarisation, de ce divorce des classes moyennes américaines blanches avec, en gros, la globalisation et le monde tel qu'il a évolué au cours des 20 ou 30 dernières années, avec notamment un programme de relance massif et, au fond, la tentative de redonner, on dirait ici, du pouvoir d'achat à ces classes moyennes, de leur redonner un cadre, de leur donner des avantages sociaux.
Des infrastructures.
Exactement, pour que ça reparte. Et historiquement, l'accord entre, d'une part, l'empire américain, à partir de la Seconde Guerre mondiale, cette expansion et cette garantie universelle qu'offraient les États-Unis au reste du monde de soutenir le système national, de le sécuriser, etc. Et la classe moyenne, les intérêts, les avantages que la classe moyenne américaine en retrouvée se sont peu à peu amenuisées dans les années 90 et 2000 et ont donné en particulier Trump. Et donc les Américains en ont eu marre d'aller mourir au Moyen-Orient, par exemple, de dépenser de l'argent pour garantir le système international alors que cela rendait le monde plus sûr pour la Chine et l'Arabie Saoudite. Et c'est tout ça qui s'est produit et c'est ça à quoi Biden essaye maintenant de remédier.
Deux questions très rapides, l'émission se termine. Vous êtes directeur et fondateur du Forum sur la paix. Est-ce que le monde a besoin d'un shérif et même d'un shérif réticent, comme on l'a dit, des États-Unis?
Ce qui est sûr, c'est que la sécurité précède la question du traitement des défis globaux, climat, santé, biodiversité, etc. Parce que sans sécurité, les hommes ne sont pas capables de se concentrer sur les défis plus larges qui les guettent.
Vous avez consacré un livre aux stratèges de l'Empire, pour reprendre le titre de cet essai. Brzezinski, donc conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter, très grand connaisseur de la géostratégie. Il y a eu Kissinger. Qui est aujourd'hui le stratège de l'Empire américain ?
Personne ne leur a succédé à ce niveau-là de réflexion. L'actuel conseiller à la sécurité de Biden, Jake Sullivan, a terrorisé notamment une politique étrangère pour les classes moyennes, mais ça tient davantage du programme politique.
Qu'est-ce que ça veut dire,
ça ? C'est une politique étrangère qui vise justement à réconcilier les classes moyennes américaines avec le rôle global, le rôle impérial des États-Unis en répondant à leurs besoins de sécurisation économique, culturelle, etc. Mais ça ne fait pas une pensée stratégique et il n'y a pas de figure actuellement comparable à celle de Kissinger ou Brzezinski.
C'est passionnant. En tout cas, merci Justin Weiss d'avoir été l'invité du Grand Face-à-Face de France Inter ce samedi 11 septembre. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission à la réalisation. C'était Marie Merrier et à la technique Florian Dorimini à la suivre sur Inter, le journal de 13h.